Écho d'économie.
Les retombées de la visite des 48 heures du président kenyan Uhuru Kenyatta en RDC. Nous en parlons dans Écho d'économie avec le président congolais Félix Antoine Tshisekedi. Il a conclu des partenariats dans le sens de faciliter les échanges commerciaux entre leurs deux pays et la construction des infrastructures. C'était le deuxième jour ce mercredi de la série de trois journées villes mortes décrétées par la société civile de Bounia pour réclamer la paix. Cette demande intervient dans un contexte où les prix ont flambé sur les marchés de Bounia, ce qui justifie le désaveu d'une bonne partie de la population. La RDC, qui a déjà ratifié le traité de la ZLECAF, est encouragée maintenant à mettre tout en œuvre pour lutter contre les barrières tarifaires. L'exhortation est du directeur général de l'OGFREM. Voilà pour les titres, vous êtes tous les bienvenus. Fin ce mercredi de la visite de 48 heures en RDC du président kenyan Uhuru Kenyatta. Cette visite de renforcement de la coopération bilatérale entre Kinshasa et Nairobi a conduit les deux chefs d'État à conclure des accords dans plusieurs secteurs. Je vous propose d'abord d'écouter le président Uhuru Kenyatta du Kenya.
Un secteur particulier que je voudrais demander que nos équipes se mettent à travailler, c'est particulièrement le problème lié à nos immigrations différentes, de telle sorte que nous voulons arriver à une bonne entente en matière d'échange, en matière de mouvement des personnes ainsi que des biens entre nos deux pays, et que ces équipes puissent arriver à nous produire un résultat qui va nous emmener à abolir les restrictions au niveau de l'immigration entre les deux pays et permettre un meilleur échange, des meilleurs échanges commerciaux ainsi que des meilleurs échanges et mouvements entre les peuples de nos deux pays. Et ceci en parallèle aux discussions que nous venons d'avoir sur la façon dont nous voulons développer conjointement les infrastructures, que ce soit les routes et les rails. Et en développant ces infrastructures, nous croyons que cela va aider à renforcer le mouvement des personnes et le mouvement des biens entre nos deux pays, mais aussi à encourager l'intégration, à emmener la prospérité et la paix entre nos deux pays.
To have an island of peace and security in our region.
Des trois axes de coopération dont il était question, le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, revient sur celui qui concerne les infrastructures. Suivez.
Nous allons réussir, grâce au Kenya, à relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest, donc l'océan Indien à l'océan Atlantique. Et cela va être rendu possible très bientôt par le début de travaux de construction du corridor nord. Cette route, au départ, elle commence à Mombasa, elle monte via l'Ouganda et elle rentre en République démocratique du Congo par Beni. Elle traverse une partie de l'Ituri, elle descend sur Kisangani et elle donne sur le fleuve Congo qui, comme vous le savez, va se jeter dans l'Atlantique. Il nous reste simplement à finaliser le montage financier pour que ces travaux deviennent une réalité. Cela va ouvrir la voie à beaucoup d'autres projets entre nos deux pays, notamment également dans le secteur énergétique.
Écho d'économie sur Radio Capi nous conduit à présent dans la ville de Bounia qui se réveillait mardi sous des coups de canon dans la périphérie ouest de la ville. Ce mercredi, c'était le deuxième jour de la ville morte décrétée par la coordination provinciale de la société civile. Bounia a connu une marche des partis politiques membres de l'Union sacrée pour soutenir la motion de censure contre le gouvernement provincial, marche dispersée par la police, mais depuis hier, la paralysie des activités économiques dans la ville est presque totale. À Bounia, nous retrouvons Ezekiel Mouzalia qui nous peint le tableau de la situation économique dans cette ville qui compte plus d'1,5 million habitants. Ezekiel Mouzalia, dites-nous, vous êtes sur place, quel est le décor ce mercredi dans la ville de Bounia?
Oui, Daniel Tambinzoni, la ville de Bounia vit entre psychose, peur et exaspération. Entre les crépitements des balles à la périphérie de la ville et la ville morte décrétée par la société civile locale. Les habitants demeurent inquiets quant à l'avenir de la ville. Les longs du boulevard des Libérations, on peut voir un déploiement des éléments de la police pour maintenir l'ordre public. Ce mercredi matin, la marche de l'Union sacrée a été dispersée par cette police qui encercle pratiquement tous les coins chauds où s'exercent les activités économiques.
Et comment ces différentes manifestations manifestation affecte-t-elle aujourd'hui les activités économiques dans la ville?
Tout est parti du blocage du trafic la semaine dernière sur la RN27 à Iga Barrière, à 25 km de la ville de Bounia, à cause de la situation sécuritaire. Ajouté à cela, des mouvements de protestation à des fins politiques, en plus de la ville morte, Daniel, tout ceci a des graves répercussions sur les circuits économiques de la province. Depuis hier mardi, boutiques, magasins, supermarchés, banques et marchés publics restent fermés. Les prix des denrées alimentaires ne cessent de prendre de l'ascenseur. Autre conséquence de cette situation, Daniel, c'est la rareté de certains produits de consommation à Bounia. Même les légumes se font rares. La population qui vit au taux du jour, comme on dit ici, éprouve des sérieuses difficultés. Les opérateurs économiques craignent que cette succession des mouvements de colère ne fasse grimper davantage le prix de produits de première nécessité.
Est-ce que, Ezekiel, nous pouvons faire une évaluation de la situation en début d'après-midi de ce mercredi?
À l'heure actuelle, on peut dire oui par rapport à hier où la journée ville morte était observée à plus ou moins 90%. Mais quand même, ce mercredi, les activités avaient repris timidement. On a vu ça et là quelques boutiques rouvrir, même sur le boulevard des Libérations. Mais Daniel, tout cela reste marginal. Mais concernant les trafics, la tension est toujours perceptible car il faut réfléchir mille et une fois avant d'emprunter la route Bounia-Komanda et même Bounia-Mahagi sur la RN27, Daniel Tambinzoni.
Merci à vous, Ezekiel Mouzalia, pour toutes ces informations.
Écho d'économie.
Écho d'économie sur Radio Capi, place à présent à notre invité patient Saïba Tamboué, le directeur général de l'OGFREM. Il demande à la RDC, qui a déjà ratifié l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, à fournir maintenant des efforts pour lutter contre les barrières tarifaires. Patient Saïba s'entretient avec Paul Matendo.
Patient Saïba, bonjour. La RDC a déjà ratifié l'accord portant création de la ZILCAF. Qu'est-ce qui reste à faire à ce stade?
Bien, je pense que c'est d'abord une bonne étape franchie. Ça veut dire que nous sommes un pays qui respecte ses engagements. En 2018, à Kigali, nous étions parmi les pays qui avaient signé l'accord. Et là, nous avons concrétisé par la ratification. Il reste, comme le président de la République l'a dit dans son speech, il reste donc l'étape du dépôt, la signature donc de l'ordonnance pour déposer les instruments de ratification. Ceci dit, au niveau interne, nous devons fournir beaucoup d'efforts. Nous devons fournir beaucoup d'efforts dans le cadre de la facilitation des échanges. Je l'ai dit dans mon discours, nous devons, comme conseil des chargeurs, rester à l'avant-garde pour lutter contre les barrières physiques, tarifaires et non tarifaires. Si vous vivez en République démocratique du Congo, vous savez qu'il y a beaucoup de défis, notamment au niveau des frontières, par rapport aux formalités douanières, par rapport à la présence de plusieurs services non habilités. Et donc c'est contre tout ça que nous devons nous battre. Et je pense que c'est des efforts qui doivent être soutenus au plus haut niveau de nos États respectifs au niveau africain.
Beaucoup de pays africains hésitent encore à ratifier cet accord. Qu'est-ce que vous pouvez leur recommander?
Oui, leur crainte pourrait être légitime s'il s'agit d'une application de toutes les clauses de l'accord immédiatement. Mais nous savons que l'un des principes qui guide l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est le principe des géométries variables. Ça veut dire qu'un pays qui s'estime ne pas être prêt à appliquer tout l'accord dans son entièreté, peut différer l'application de certaines clauses à plus tard. Et on donne à chaque pays 10 ans pour pouvoir donc se préparer. Et à l'issue de la période des 10 ans, le pays va se prononcer s'il veut demeurer dans l'accord ou pas. Et donc, je pense que pendant les 10 ans, nous devons nous préparer, notamment pour doter notre pays de capacités énergétiques nécessaires, des infrastructures de transport et de facilitation des échanges, notamment des ports secs, des ports, des aéroports, des ponts qu'on doit reconstruire. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que 10 ans, c'est suffisant pour un pays sérieux, pour pouvoir s'aligner, notamment, et s'arrimer à une vision continentale. Je pense que ici, le plus important, c'est que nous puissions aller au-delà de la simple République démocratique du Congo. Nous ne pouvons pas travailler en vase clos. Nous ne pouvons pas évoluer en autarcie. Parce qu'en effet, nous sommes un pays dans un continent, nous sommes un continent dans un monde en pleine mutation. Et nous, en tant que pays, nous devons nous arrimer aux mutations qui sont en train de secouer le monde. On n'y peut rien.
Vous prenez le flambeau de l'Union des conseils des chargeurs africains à la fin de ces travaux. Quelles sont vos priorités en gros?
Nous avons d'abord la priorité sur la visibilité de notre organisation. L'Union des conseils des chargeurs africains a été créée depuis plus de 40 ans. Mais il semble que le travail ou les missions ou le rôle qu'il joue sur terrain semble ne pas être très reconnu au niveau continental. Et nous pensons que nous avons besoin d'une reconnaissance au niveau continental. Et nous sommes, nous, conseil des chargeurs. Le conseil des chargeurs gère le fret. Et quand on parle de la zone de libre-échange continentale africaine, mais c'est l'échange sur les frets. Ce n'est pas l'échange des idées, c'est l'échange des frets, de la marchandise. Et le conseil des chargeurs gère la marchandise. Il est tout à fait normal que nous puissions jouer le rôle d'avant-garde par rapport à ce processus de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine.
Parlons du port de Kasumbalesa. Quelle est l'évolution des travaux à ce stade?
Bon, la première chose d'abord, c'est que nous avons sécurisé le site. Nous l'avons entièrement clôturé, 62 hectares. Nous avons compacté 20 hectares qui attendent maintenant le bétonnage. Là, nous avions de fortes pluies au niveau de Kasumbalesa. Nous allons profiter de cette saison sèche pour essayer de bétonner quelques hectares et rendre déjà opérationnel le module du parking. Ça, ce n'est qu'un module. Et je pense que nous sommes tout aussi heureux que fiers de recevoir la visite du secrétaire général de la zone de libre-échange continentale africaine qui s'est engagé à accompagner le GFM dans la recherche des financements. Il a même dit à plusieurs audiences qu'il a eu ici auprès des autorités congolaises, qu'il a quelques idées déjà sur la source des financements ou les diverses sources de financement qui pourraient venir en tout cas rendre concrète la vision du port sec de Kasumbalesa.
Monsieur Patient Saïba, merci.
Merci Paul.
Écho d'économie, c'est fini à présent. Vous pouvez le réécouter sur www.radiocapi.net.